l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Immo et achetez-louer.fr. Une émission présentée par Fabrice Coustet et Bérénice Deville en partenariat avec Guy Hockey.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission réalisée en partenariat avec le site achetez-louer.fr. Pour animer cette émission, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour mon cher Fabrice Coustet.
Chaque mois, on vous propose le meilleur des actus, des conseils, des réflexions pour mener à bien votre projet, que ce soit pour acheter ou pour louer. Alors, chère Bérénice, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ?
Eh bien, nous allons d'abord nous intéresser à l'actu, évidemment, avec notre revue de presse spécial IMO, avec notre chroniqueuse Élodie Rabel. Toutes les news, les infos à retenir jusqu'aux plus insolites, et même, Élodie, votre coup de gueule.
Tout à fait, Bérénice, je suis en colère.
On va voir ça. Se sent. Et puis on aura effectivement les mots de l'IMO, on va s'intéresser au déconfinement qui signe le retour des télétravailleurs au bureau, le télétravail stop ou encore, on écoutera donc vos réponses dans ce micro-trottoir. Et puis la dernière rubrique de ce magazine, on termine avec la météo de l'IMO.
Et oui, je vous propose une météo de l'IMO, toutes les tendances pour votre achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, ainsi que la météo des taux.
Voilà, et puis pour nous accompagner et commenter toutes ces actus, deux spécialistes sur le plateau. On a le plaisir d'avoir Stéphane Fries avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Président de Guy Hockey et Henri Buzicazo. Bonjour Henri.
Bonjour Fabrice.
Président de l'IMSI, Institut.
Cela est vrai.
Du management des services immobiliers.
Oui.
Voilà.
Allez, ravi d'être avec vous tous, avec Stéphane en particulier.
On l'a bien compris, les deux compères sont là. Allez, tout de suite on démarre avec l'immobilier à l'habitat. C'est parti.
De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse.
Et chaque mois, nos journalistes épluchent la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops, les chiffres. Élodie, c'est vous qui vous y collez cette semaine. Qu'avez-vous déniché dans l'actu ?
Alors Fabrice, dans l'actu IMO de cette semaine, le changement, c'est maintenant, comme dirait un de nos anciens présidents de la République. Un changement dû à la crise sanitaire encore et au télétravail. Du changement aussi sur le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE qui fait peau neuve. Et du changement aussi parce que c'est la rentrée bientôt. Enfin, c'est les vacances, mais c'est bientôt la rentrée et il faut la préparer. On va commencer avec cette enquête du Figaro Immobilier, le déconfinement. Et là, pour autant, 8 Français sur 10 veulent continuer de télétravailler. Ça a des conséquences sur le marché, notamment à Paris, d'ordinaire boudé. Les très petites surfaces, et quand je dis petites, je parle de 9 mètres carrés ou moins.
C'est petit.
Oui, voilà, ces petites cages à poules retrouvent de l'intérêt, voyez-vous. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent constituer une sorte de petit bureau en dehors du logement ou bien un pied à terre pour celui qui est par exemple installé en province, ça a été la mode pendant le confinement, et travaille toujours dans la capitale. Le prix du mètre carré de ces micro-surfaces tourne en moyenne autour de 15 000 euros le mètre carré. C'est 50% de plus que le tarif moyen parisien quand même. Ce qui change aussi, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. La nouvelle version arrive le 1er juillet, autant dire demain, il devient opposable. Il pointera encore plus les logements énergivores, notamment ceux classés F et G. On le rappelle, ils vont être interdits à la location à l'horizon 2028. La FNIM craint que la visibilité accrue des qualités techniques d'un logement dévalorise le patrimoine des propriétaires qui ne voudraient ou ne pourraient pas rénover leurs biens.
Alors on va faire tout de suite réagir nos invités à ces deux annonces, enfin ces deux infos. On démarre avec le télétravail et une tendance, alors qu'on a étudié il y avait les villes moyennes qui ont été étudiées qui ont le vent en poupe en ce moment, et il y a une tendance avec les Parisiens, enfin ceux qui étaient propriétaires, certains, pas tous, ils vendent leur résidence principale à Paris, ils s'installent en province, mais ils achètent aussi une petite surface au cas où, on ne sait pas, le télétravail finalement ne serait pas pérennisé. C'est assez intéressant de voir que ces petites surfaces sont de plus en plus recherchées. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri ?
Moi, je pense que ça, c'est un épiphénomène. En revanche, le phénomène qui va s'imposer, c'est une évolution des bureaux. On estime à moins 40% les besoins de superficie en bureau. Parce que oui, il va y avoir en moyenne deux jours et demi de télétravail dans beaucoup d'entreprises. On n'y voit pas très clair encore.
Mais c'est sûr, mais parce qu'apparemment, il y en a qui font marche arrière.
Alors, voilà, il faut raison garder. Mais c'est vrai que, allez, on y verra clair sûrement plutôt en 2022 qu'aujourd'hui. On va probablement vers deux jours de télétravail dans beaucoup d'entreprises. Même des TPE, même des PME et des grandes entreprises, c'est clair. déjà, on verra à l'arrivée. Il est certain dans ce contexte qu'il y a deux conséquences. Un, les bureaux resteront nécessaires. Il faut arrêter de dire, on ne va plus aller au bureau, on va plus, parce que la vie d'une entreprise, c'est les rencontres, les échanges. Moi, je n'ai jamais innové, inventé quelque chose sans rencontrer quelqu'un de mon équipe. Bon, alors pas forcément 5 jours sur 5, ça c'est clair. Et les bureaux, ils vont faire la part belle au partage, à des espaces nouveaux, plus conviviaux. Je pense qu'on ne va pas vers des 9 mètres carrés, ça, excusez-moi, mais je crois que c'est anecdotique. On va vers des bureaux d'entreprise différents, plus agréables, des emplacements de premier choix. C'est certain. Images pour recruter plus facilement des personnes qui savent qu'elles ne vivront pas dans ces bureaux, mais qu'elles y viendront. Et deuxièmement, il y a l'impact sur le logement. Mais là aussi, il faut se calmer, quoi. Quand on dit... alors, tout le monde va quitter les grandes villes, parce que c'est terrible, les grandes villes, c'est affreux. Non, c'est pas affreux. Ça fait un an qu'on ne vit pas les grandes villes comme elles le sont. On vit dans un univers carcéral. Moi, je suis désolé, je vis à Paris. Mon accent témoigne que je ne suis pas parisien. Mais Paris est une ville très agréable à vivre quand on la vit normalement, c'est-à-dire en liberté. Et on peut en sortir le week-end et on peut profiter des espaces verts. Et on n'est pas enfermé chez soi. Parce que chez soi...
cafés, restaurants que vous affectionnez, Henri.
Mais bien sûr, parce que la ville est en train de redémarrer. Ça, c'est la vraie vie des villes. Les villes, c'est ça. C'est les échanges, la diversité. Et les logements qui servent aussi... On appelle ça la porosité, à travailler avec une pièce de plus. Une pièce de plus, c'est 10 mètres carrés. Qui va pouvoir se l'offrir? Alors, il y a une proportion de ménages, tant mieux, ça décongestionne les grandes villes, qui disent on va dans une ville moyenne et on a une pièce de plus. Mais la plupart des ménages ne vont pas quitter les grandes villes ou les endroits où ils sont, première, deuxième couronne des grandes villes, et n'auront pas la pièce de plus. On va leur proposer des espaces de convivialité, mais je suis désolé, il faut arrêter d'être dans le fantasme sur on va tous changer de logement. Ça n'est pas vrai. Voilà.
Stéphane Fritz, un commentaire justement.
Le président l'a bien dit, on arrive d'une guerre, donc avec tout l'impact que ça peut avoir sur le comportement des gens. Je parle des hôpitaux surchargés, des morts.
Président Macron, tu veux dire.
Le président Macron qui a dit que c'était une guerre, qui apparentait la crise, la pandémie à une guerre. Je pense que c'est vrai. C'est une guerre sans les fusils. Le nombre de morts dans les hôpitaux, encore une fois, les hôpitaux surchargés, le confinement, le masque. S'habituer à être gouverné par ordonnance, s'habituer à gouverner pour les gouvernants par ordonnance. Tout ça, on va voir ce qui va en résulter. S'agissant de la façon dont on part, nous, ce qu'on constate, on a constaté une très très forte consultation à l'issue du premier confinement ferme que nous avons eu, très grande consultation des biens avec jardin ou des biens avec terrasse. Ensuite, ça s'est concrétisé à la sortie de l'été et on voit aujourd'hui revenir les gens dans les grandes agglomérations et ce qu'on constate, ce sont des petits sauts de... personne qui habite le centre-ville vers la première couronne, celui qui habite la première couronne vers la deuxième couronne, et rien de plus que ça. S'agissant du télétravail, je pense qu'on reviendra à l'équilibre, que ça fera partie de nos organisations professionnelles pour améliorer la vie de nos collaborateurs, parce que l'enjeu, il est quand même la captation des meilleurs collaborateurs demain. Donc ça fera partie de l'enjeu, mais on n'ira pas jusqu'à beaucoup de télétravail. Pourquoi ? Parce que, et là, je parle de l'intérêt des collaborateurs. Si à un moment donné, je prends un graphiste, pour prendre que cet exemple-là, tous les gens qui peuvent travailler vraiment à distance. En clair, j'ai le siège à Paris et il peut travailler à Biarritz. Il est graphiste, je ne le vois pas de la semaine, voire même je ne le vois pas, presque pas, ou pas du tout. Déjà, il va se déconnecter des gens. Et deux, la question qui va être posée au patron, c'est pourquoi je ne le fais pas à l'île Maurice ? Pourquoi je ne le fais pas en Inde ? Pourquoi je ne le fais pas en Tunisie ou au Maroc ? Enfin, je veux dire, de toute façon, je ne le vois pas.
Bien sûr.
Donc, dans l'absolu, quand tu n'as pas le voir, autant le payer trois fois moins cher. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et accessoirement, en France, nous qui sommes une nation intelligente, je le pense, et une nation de savoir, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble pour que le savoir, il se partage, il se mélange. Et, enfin, la production des équipes, c'est quand on est ensemble qu'il se passe le plus de choses. Même quand on va ensemble au restaurant, il se passe des fois plus de choses que dans une réunion. Donc, je ne pense pas que le télétravail deviendra la règle demain. Je pense que le vivre ensemble va revenir, mais que le télétravail sera un outil pour améliorer notre façon de travailler.
Non, on a un petit sujet sur le télétravail, mais on continue sur l'info. Élodie, avec la rentrée qui s'approche.
Oui, en effet, c'est une bonne chose pour les étudiants, mais n'empêche que j'ai un petit coup de gueule à passer. Vous savez, la rentrée, notamment universitaire, je pense que Stéphane sera d'accord avec moi, ça veut dire la recherche d'un studio pour nos chers étudiants. Donc les plus jeunes, les admissions Parcoursup sont tombées. Comme chaque année à cette saison, c'est la course au logement, elle est lancée je pense. Et certains individus peu scrupuleux, pour ne pas dire malhonnêtes, en profitent pour poster des annonces frauduleuses sur des sites bien connus de portails immobiliers. Je m'explique. Alors ce sont des offres de location où le soi-disant propriétaire vous demande de payer la caution avant la visite. Concrètement, il vous dit généralement qu'il n'est pas sur place, il est dans une autre ville à l'étranger, il ne peut pas se déplacer pour vous faire visiter, encore moins pour rien si vous n'êtes pas content, et qu'il est tombé aussi sur des postulants qui n'avaient pas les fonds pour la caution. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous demande de réserver la somme via des systèmes type Western Union, Mandaria ou même des tickets transcash achetés au tabac, tout en précisant, vous dites pas que c'est pour une location au tabac, vous gardez ça pour vous. Ça, c'est pour vous rassurer, il vous dit que ce virement, vous le faites à un proche et si vous êtes content de la visite, vous changez l'adresse du destinataire vers le propriétaire. Et là, c'est l'arnaque parce que...
Attention, danger.
Oui, parce qu'en fait, vous, pour prouver, vous envoyez la photo de votre mandat ou de vos tickets transcash, mais en fait, rien qu'avec cette photo, rien qu'avec votre nom, il peut récupérer l'argent de n'importe où sur la planète.
Alors les arnaques, ça a toujours existé. Le coup de gueule, c'est que ça ne soit pas finalement suffisamment peut-être modéré par les sites d'annonce.
Bah, surtout que c'est en cette période, elle pullule. Il y en a partout, même très régulièrement, beaucoup plus que le reste de l'année. Le coup de gueule, ça s'adresse justement aux portails immobiliers. Pourquoi il n'y a pas de modération préalable à la publication? Pourquoi ce sont aux utilisateurs de devoir, en gros, signaler pour que l'annonce soit éventuellement supprimée?
Car souvent, ils ne sont pas.
C'est un peu dur. Je ne peux pas parler à leur place. Ils ne sont pas là, que ce soit se loger, bien ici. Voilà, bon. Ils ont des systèmes de modération, des SAS. Ça, je peux en attester. Que le crible ne soit pas suffisant, qu'à certaines périodes, il y ait une tentation plus grande d'arnaquer, oui, on ne peut pas en disconvenir. Qu'il faille que les portails renforcent encore leur firewall, leur précaution, je ne dis pas. Ils ne font pas rien. Ils ne font pas rien.
Ah non, ils ne font pas rien, voilà. Ils enlèvent, mais c'est la moindre des choses.
Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses.
Ne peut-on pas prévoir en période justement de gros rush sur les petites surfaces, parce que les étudiants cherchent à se loger maintenant, renforcer les équipes de modération?
Si, bien sûr. Voilà ce qu'on peut leur dire et leur envoyer ce message-là. Je pense qu'ils réalisent que le digital, que tout le monde aime, c'est magnifique, c'est fluide, c'est fabuleux, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, c'est tout simplement. Il y a plus d'arnaques qu'il n'y en a jamais eu. Parler à la direction de la concurrence, elle est dépassée. Elle est dépassée. Et même si aujourd'hui, elle se met sur la cyber... criminalité, sur les cyber-abus, mais c'est très difficile. Donc oui, il va falloir renforcer les équipes dans toutes les entreprises digitales, c'est clair.
Après, je pense aussi qu'il faut faire de la prévention. C'est comme partout. Quand on reçoit des emails, moi j'en reçois quasiment, peut-être pas toutes les semaines, mais les impôts qui me disent « Ah, bah, il manque quelque chose » ou « Le compte Netflix, vous n'avez pas payé, vous allez être coupé. » Enfin, il faut prévenir.
EDF, mais bien sûr.
Il faut avertir les gens, il ne faut pas être naïf.
Oui, il faut une formation.
Et il ne faut pas payer tout simplement avant d'avoir quelque chose.
Bien sûr. Voilà, règle de bon sens en tout cas, que ce soit pour les voitures, les apparts, n'importe quoi, n'envoyez surtout pas d'argent si vous ne voyez pas le bien de vos yeux, visitez a priori.
Évidemment.
Et puis Stéphane, peut-être passer par son agence aussi du quartier quand on prospecte et qu'on a de la chance.
Le réseau Guy-Hockey sponsorise l'émission, je ne voudrais pas que la question elle soit juste pour moi et pour pouvoir répondre à ça justement, c'est que de PAP, de particulier à particulier ou sur les sites d'annonce, vous venez de le dire, Henri l'a très bien dit, il y a déjà des filtres, c'est une réalité, que ce soit sur bien une site, il y a déjà des filtres, mais si vous voulez mettre des moyens en contrôle, forcément, ça va être plus cher. On voit la limite du digital. Quand vous allez voir une agence, elle engage sa responsabilité sur sa carte T. C'est un métier qui est réglementé, qui est régi par la loi Hoguet, qui oblige le professionnel, sécurise le consommateur. Et c'est parfois ça aussi le coût de ces assurances-là. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous faire...
Arnaquer,
je vais vous laisser le mot, passer par une agence.
Ah, mais on va vers un monde beaucoup plus dur de ce point de vue-là, avec le digital. C'est très très clair. Il faut se le dire, ça, c'est la vérité.
Il faut être vigilant.
Beaucoup plus, qu'on l'était il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais c'est
même
certain.
À d'autres agences.
Allez
voir un professionnel de l'immobilier. Au moins, il est sécurisé par sa carte, il est assuré pour ça. Et lui fera le tri. Lui va faire ce travail de fond.
Sur un
site internet, vous êtes de particulier à particulier, vous ne savez jamais derrière ce qu'il y a.
5e bâton, il est déjà.
Merci messieurs, dames, merci Elodie pour ce coup de gueule, en tout cas très informatif. La suite, c'est notre micro-trottoir. On va reparler télétravail.
De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'immo.
Chaque mois dans l'immobilier à l'habitat, on va à votre rencontre pour vous donner la parole sur les sujets qui vous intéressent. La rubrique Les mots de l'IMO. Et ce mois-ci, on s'est intéressé au phénomène du télétravail. Les Français ont-ils envie de reprendre le chemin du bureau? On écoute tout de suite leur réponse.
Moi, j'attends d'avoir de la flexibilité, pouvoir à la fois venir et à la fois avoir la flexibilité de s'organiser. Mi-temps télétravail, mi-temps présentiel serait parfait. Je trouve que c'est quelque chose à conserver et à répandre massivement. Pour moi, c'est un peu le futur des modes de travail et ça doit aussi s'inscrire dans le temps. Donc je pense que c'est une bonne chose à conserver de la pandémie. Ça permet d'avoir de la flexibilité dans son organisation personnelle, de réduire le temps de trajet, du coup de gagner sur le confort et l'efficacité ensuite au travail.
Moi qui viens de province, en fait j'attends le retour au travail parce que contrairement aux grandes villes, on n'a pas beaucoup de trajets et je trouve que trop de télétravail, ça déshumanise tout. Le fait de ne plus voir ses équipes, ça peut créer une distance progressive dans l'organisation du travail.
Moi, plutôt du télétravail. Je préfère avoir le calme à la maison, travailler tranquillement. Ça permet de plus d'autonomie, d'efficacité, être tranquille chez soi, tout en travaillant efficacement.
Ouais. Qu'il évolue vers un peu plus de flexibilité, plus de distance, un peu plus de proximité, voilà. On sera plus proche en étant parfois un peu plus loin. Une bonne organisation, mais un peu plus souple qu'avant.
Qu'on puisse retrouver une vie sociale avec nos collègues, parce que c'est vrai que travailler à distance, c'est bien pour une période limitée, mais dans le temps, c'est pas tenable. Bah, ce qui manque, c'est le sens, finalement, le sens du travail. Et travailler, c'est pas juste un job de 9 à 7, quoi. C'est une vie sociale avec des collègues, une interaction. Je veux pas que mon bureau il soit cloisonné. Je veux continuer à pouvoir échanger avec mes collègues. Après, il est clair que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont revu en tout cas leurs aménagements de bureaux, y compris leur aménagement d'entreprise. Est-ce que concentrer les entreprises dans les grandes villes, est-ce que c'est une solution viable dans la durée? Est-ce que la Défense est un site qui va rester tel qu'il est, tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant? Je ne crois pas, personnellement. Donc il va falloir effectivement réinventer la vie au travail et la vie avec ses collègues.
Réinventer la vie au travail, c'est vrai, avec cette coupure, cette parenthèse, hein, pas forcément enchantée pour le coup, pour certains. Alors il y en a même qui ont des difficultés à reprendre le chemin du travail, le syndrome de la cabane. On a défloré un petit peu le sujet, Henri Buzicazo, avec ce bureau. Hein, vous avez commis un édito, voilà, le monde d'après qui ne sera pas forcément très très différent. On a peut-être un peu fantasmé sur les changements à venir.
Je trouve passionnant ce recueil de témoignages. J'ai l'impression qu'il y a tout là-dedans. Il y a tout. L'histoire du sens du travail. Moi, je suis désolé, j'entends depuis un an, formidable, vous n'allez plus aller dans l'entreprise, c'est-à-dire vous n'allez plus travailler. Mais je suis désolé, c'est structurant d'une vie, le travail. Alors bien sûr qu'il y a des missions plus intéressantes que d'autres. Bien sûr que on n'a pas besoin d'être tout le temps dans l'entreprise. Mais moi, je suis désolé, la plupart des gens, on le voit bien, ils ont une soif de retourner au travail. Et dans les villes moyennes, lorsque le transport n'est pas un problème, on a envie d'aller voir ses collègues. Peut-être pas 5 jours sur 5, je suis d'accord. Mais on les aime bien, ses collègues. Même ceux avec qui on a des différends, c'est notre univers. Le problème des grandes villes avec les transports, ça a été évoqué. Oui, quand on passe 4 heures... Moi, j'ai eu des collaborateurs qui, chaque jour, passaient 4 heures. Vous savez, on ne le sait pas toujours, d'ailleurs. Hein, voilà, on se retrouve à la tête d'une entreprise. Il y a des gens, ils sont loin. Ils sont loin, ce n'est pas des gros salaires. Eh bien, dire à cela, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, ça tu ne tout. Vas pas subir ça, ça change tout. C'est une évidence. Et dans les villes moyennes, ce n'est pas un sujet. Ou c'est un sujet qui n'est pas douloureux. Donc, voilà, on va avoir plusieurs régimes. C'est une respiration, c'est une souplesse, c'est une modalité. C'est comme le téléenseignement. Moi, je préside une école. On a dit il y a un an à tous les étudiants, formidable, tu ne vas plus aller à l'école. C'est un idéal, ça, de ne pas aller à l'école. Ouais. Ça ennuie tout le monde. Bon. Et en fait, non.
Vite revenu.
Moi, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, j'ai des étudiants. Et en plus, ils ont une perspective professionnelle. Ce n'est pas ceux qui sont dans le désarroi. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Les miens, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils vont faire de l'immobilier. Ils sont en alternance. Ils ont continué l'alternance. Mais on leur a dit, tu ne vas plus à l'école. Ça, ce n'est plus possible. Ça leur manque épouvantablement. Voilà. Et aujourd'hui, ils ne rêvent que de retrouver leurs enseignants, qui vont les engueuler, parce que c'est structurant, ou les féliciter, il y a les deux, leurs potes. Et donc, tout ça va se recaler. C'est ça que je veux dire. On est en train de s'en apercevoir. Quand vous interrogez même des figures de l'immobilier qui ont beaucoup de hauteur, je pensais à la présidente de Gessina, des gens qui pourraient dire « Ah non, les bureaux, c'est fini, on se repositionne ». Ils ne disent pas ça. Il va y avoir, on va repositionner les choses, mais c'est certain qu'il ne faut pas partir sur des délires, parce que le travail, c'est structurant, l'entreprise, c'est structurant, et ce n'est pas des univers malheureux.
Tout à fait. Stéphane, vous voulez ajouter un petit mot ?
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Henri. Aujourd'hui, je pense que s'il va falloir laisser atterrir, la place, elle est aujourd'hui à la discussion avec nos équipes. C'est aujourd'hui comment on fait pour vivre mieux en mettant en avant, un, les risques qu'il peut y avoir et les avantages qu'il peut y avoir. Et c'est un travail de fond qu'il va falloir faire. Et je pense personne par personne, poste par poste, il va falloir travailler. Ça va amener de la souplesse, mais il faut aussi raison garder, ouais, le groupe d'abord, le projet d'abord, et au centre de tout ça, le collaborateur.
Et pas de solution unique, évidemment.
Et le nombre de ceux qui sont plus unique. Heureux au bureau qu'ils ne le sont chez eux. Oui. Je suis désolé, il faut le dire ça.
Il y a eu beaucoup de burn-out pendant les confinements.
Il faut le dire.
C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a eu beaucoup de burn-out, des gens qui se sont vus dépasser, qui étaient mal chez eux, et qui n'avaient qu'une envie, c'était de retourner au travail.
Un homme qui disait, mais moi, chez moi, j'ai le calme. Mais quelle est la proportion de ceux qui ont le calme chez eux? Je suis désolé, c'est
20% de 10 heures en plus.
Voilà, c'est ça.
25% de 10 heures.
Il y a un cinquième des Français qui, chez eux, sont au moins aussi bien qu'au bureau.
Bien
et
sûr.
Les autres, bah, au bureau, ils sont bien parce qu'ils ont un espace, ils sont tranquilles et que chez eux, ils ne le sont pas. Il faut le dire, ça.
Le sujet est vaste et il est loin d'être clos. Allez, on passe à une dernière rubrique, la météo de l'IMO, tout de suite.
De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO.
C'est l'heure de la météo de l'IMO. On vous rappelle le principe, on s'intéresse chaque mois aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier, le marché du neuf, le marché de l'ancien, le taux des crédits. Pour chaque rubrique, Bérénice, vous nous dites si le climat est plutôt favorable ou pas. On démarre avec le niveau des crédits immobiliers.
Et grand beau pour cette catégorie, hein, les taux des crédits immobiliers restent stables en juin, entre 1,20 et 1,30% sur 20 ans. On observe donc une certaine stabilité des barèmes, hein, les banques n'ont quasiment pas bougé leurs taux. En clair, ça signifie qu'elles restent donc ouvertes à la captation de nouveaux clients. Bien entendu, les ménages disposant d'excellentes perspectives d'un point de vue professionnel restent particulièrement recherchés, vous l'aurez compris. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué.
Ouais, évidemment. Hein. Stéphane en avait parlé dans les autres émissions, des conditions, des fois, qui se resserrent un petit peu.
Durcissent,
oui. Alors, des taux toujours très... Des conditions très avantageuses pour les bons dossiers. Pour les autres, il faut quand même montrer patte blanche. Vous l'observez sur le terrain ?
On observe sur le terrain que ça se resserre légèrement. Maintenant, le resserrement léger n'empêche pas aujourd'hui le volume de s'emballer. On est à plus 11% par rapport à 2019.
Ouais.
Enfin, le marché s'est clairement emballé. Les gens achètent. Il y a quand même une forte appétence à la propriété, à l'accession à la propriété. Et aujourd'hui, les taux, même s'ils augmentent et si ça se resserre, ça envoie quand même en termes de volume. On parle aujourd'hui même de 0,20, 0,30. On parle de 40 euros. Sur une mensualité à 1000, sur 25 ans, ça n'empêche pas d'être propriétaire au lieu de locataire et d'envoyer à fonds perdu. Donc aujourd'hui, oui, ça se resserre. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut ça se resserre dans un marché faste ? Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve aujourd'hui d'un peu plus de raison dans un marché faste ? Voilà, je n'ai pas une position tranchée sur ça.
C'est courageux de dire ça.
Je ne serai pas en défense aujourd'hui de l'immobilier ou du crédit de ce point de vue-là. Puisque, encore une fois, c'est certainement dans un marché face qu'il faut avoir des positions courageuses.
Henri, 10 secondes.
Préserver les gens.
Je valide. Je pense que le marché, il s'emballe. Moi, je retiens le mot. Des prix qui augmentent ou qui se calment à peine, alors que les ménages sont fragilisés. Oui, peut-être qu'il faut calmer le jeu par la distribution du crédit un peu plus raisonnable. Voilà.
On enchaîne avec la météo sur le marché du neuf, un petit peu plus morose.
Eh bien, à côté, oui, immobilier neuf, nuages et orages en vue. Si les ventes de logements neufs rebondissent au premier trimestre 2021, elles ne retrouvent pas leur niveau d'avant la crise. Pire, avec la chute des permis de construire, on en parle beaucoup, l'offre recule à tel point que les promoteurs redoutent une prochaine pénurie. Le Premier ministre a annoncé le 17 mai dernier la mise en place d'un plan de relance baptisé « Habiter la France de demain » d'un montant d'un milliard d'euros. Il vise plusieurs objectifs, accélérer la reconversion des friches urbaines, développer de nouvelles formes d'habitat écologique, accélérer la transformation de bureaux en logement, mais ce sont des mesures qui ne vont pas porter leurs fruits avant un ou deux ans. Vous dites pipeau, Henri.
Bon, oui, moi je suis sévère. On a des problèmes de fond. Moi je crois plus à la commission Rebsamen qui a été créée pour faire une analyse de fond. on va enfin, on aurait peut-être dû le faire il y a 2 ans et demi.
Hein, oui, parce que ça, là, ça arrive à la fin du mandat en
même
temps. Oui,
bon, mais allez, on ne va pas bouder notre plaisir. Qu'enfin on fasse une vraie analyse. Le sujet, ce n'est pas la mobilisation des friches. Mais oui, d'accord, je suis pour ça. Mais c'est, franchement, le milliard en question, là, quand on analyse, ce n'est rien. Ça n'est pas ça qui va sauver le secteur. Le secteur, c'est réconcilier l'État avec les collectivités locales, avec les maires. Il faut se poser des questions. Mobiliser le foncier. Revoir la fiscalité locale. Il y a plein de sujets. J'attends beaucoup de la commission Rebsamen, plus que du plan de relance qui est optique, qui est symbolique. Je suis désolé, ce qu'a annoncé le Premier ministre Castex, allez, je dis pipeau pour faire sourire les auditeurs et vous, mais franchement, c'est pas puissant.
C'est pas assez.
Non.
On termine avec le marché de l'ancien Bérénice.
Eh bien, grand beau sur le marché de l'ancien, après une année 2020 record qui a vu un cap du million de transactions dépassé malgré 2 confinements. L'année 2021 démarre très très bien, mais attention, le nombre de ventes de logements anciens a chuté de 12% en Île-de-France en 2020, une première depuis bien longtemps. Ce n'est plus la région capitale qui tire le plus le marché, ce sont clairement les régions qui ont pris le relais, avec une conséquence forcément. La hausse des prix s'accélère entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020. Ils augmentent maintenant plus vite en région, plus 6,5% qu'en Île-de-France. Certaines villes moyennes battent des records.
Ouais, on voit que c'est un peu la revanche des villes moyennes. En revanche, vous contestez pas de chute du vente de logements à Paris, en Île-de-France.
Je ne conteste pas. Après, encore une fois, on est un des acteurs majeurs aujourd'hui de l'immobilier en transaction. Et malgré tout, nous ne faisons pas le marché. Ce n'est pas nous qui faisons le marché. Donc raison gardée sur ça. Nous, on constate 11% de volume en plus par rapport à 2019, puisqu'on ne compare plus à 2020, compte tenu qu'on avait 2 mois d'arrêt d'inactivité.
Ouais.
Donc on compare à 2019 versus 2019, qui était une année record, on a plus 11% et plus 6% sur l'Île-de-France. Donc aujourd'hui, on ne constate pas aujourd'hui de baisse de volume. Maintenant, c'est peut-être notre prise de part de marché.
Oui, peut-être dans cette mieux que le marché, comme on dit.
Mieux que le marché, peut-être qu'on surperforme le marché. Mais en tout cas, on ne constate pas ça aujourd'hui dans nos chiffres à nous. Mais j'entends ce que vous dites et je ne le conteste pas. Non.
On arrive, messieurs, au terme de cette émission qu'on a déjà largement dépassée, parce qu'on avait des gens bavards sur le plateau, mais passionnants. Merci Henri Buzicazo, président de l'IMSI. Merci,
Stéphane Gris,
président de Guioquet. Merci Bérénice à la technique, Théo Dambourg. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Immobilier à l'Habitat.
De l'Immobilier à l'Habitat, une coproduction Radio Immo et HDLoué.fr. Une émission présentée par Fabrice Coustet et Bérénice Deville en partenariat avec Guioquet, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.